l'occasion de l'exposition personnelle d'Éric Baudard, Ralentir le vent, l'artiste s'entretient avec Michel Gauthier, conservateur au Musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou. L'historien d'art et l'artiste reviennent sur le parcours et les œuvres phares de ce dernier, situant son travail dans l'âge pose du champion de la sculpture. Il est question des objets et des matériaux interpellant Éric Baudard et de ses œuvres conceptuelles qui exaltent paradoxalement la forme, la matière et les sensations.
Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir l'occasion de parler avec Éric Baudard de son travail. J'ai découvert ce travail, ça fait peut-être bientôt une vingtaine d'années. Il a immédiatement retenu mon attention et a continué de le faire, ce qui n'est pas toujours le cas. Quelques titres d'exposition qui m'ont marqué, hein, je les lis pour pas en oublier. Tight Sliding, qui est probablement la première que j'ai vue. Density is not real. Petaflops, là où je suis n'existe pas. Avec et sans, more, again, again, again. Les choses classiques, et puis certaines que j'ai pas vues. One, maybe, two, parsecs. Neutralino, corps simple et composé que j'ai vu. Et puis en ce printemps, ralentir le vent. Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est pourquoi d'ailleurs Éric est à mes côtés, c'est non pas de faire une conférence sur le temps viendra peut-être un jour, mais une conférence sur Éric, mais de faire au fond défiler une quarantaine d'images qui sont les œuvres dont je me souviens ou que j'ai découvertes en travaillant. Et je t'ai proposé, tu as accepté, hein, que chacune d'entre elles soit le support de notre conversation. Alors il faut bien démarrer un peu par un statement comme ça, un peu à l'emporte-pièce, qui va susciter soit l'approbation d'Éric, soit son indignation, soit on va voir. Mais au fond, la sculpture et l'art d'Éric appartient, pour le dire sans doute un peu vite, à l'âge post-ready-made de la sculpture. Hein. De Maulle, au fond, le ready-made du Champien avait ouvert quelque chose comme l'âge conceptuel de l'art, avec lequel l'œuvre d'art n'existe, ne vaut qu'en tant que signifiant, que véhicule d'un concept. Eh bien, l'âge post-ready-made de la sculpture, que manifeste notamment le travail d'Éric, a ceci de singulier, que ce ready-made qui ne devait qu'être le signifiant de ce stade conceptuel de l'art, y exalte singulièrement et peut-être même paradoxalement la forme, la matière, les sensations, pour le dire vite, quelque chose comme une forme de littéralisme. Alors, j'ai pensé qu'il était peut-être bien, compte tenu non pas du temps, mais compte tenu du titre de l'exposition, de commencer avec cette œuvre qui est l'une des premières que j'ai vues de toi, qui me semble être connectée très directement à, sinon la problématique de cette exposition ici au Crédac, mais avec son titre, hein, puisqu'au fond, un pare-brise, c'est quelque chose qui est fait non pas pour ralentir le vent, mais même pour le stopper. Donc là, on est confronté à quelque chose qui est de l'ordre du ready-made, mais qu'on n'est pas du tout surpris de le voir dans une œuvre, dans une galerie. L'idée, c'est pas du tout de s'étonner de la conversion en objet d'art de ce pare-brise, mais ce qui nous attire, nous intéresse, c'est sa forme, son aérodynamisme, les reflets qu'il dispense, sa couleur. Voilà, on est au début, là, quand même, parmi les premières...
Début, on est au tout début. On est même, en vérité, c'est une pièce que j'ai réalisée donc, au Beaux-Arts. C'est une pièce que j'ai présentée à mon diplôme et c'est une pièce qui figure dans la première exposition que j'ai faite dans la galerie Valentin. Bon, à l'origine, la pièce, c'est un... En fait, j'ai traversé un parking... Je vais faire assez bref. J'ai traversé un parking... Le parking... j'ai traversé le parking du Mont-Saint-Michel et avec un ami. Et on est passé par cette partie où il y a tous ces quarts de tourisme. Et mon regard s'est arrêté sur ces grands morceaux de verre. Et c'est quelques mois plus tard que j'ai décidé d'en acheter un.
Qu'est-ce qui t'a décidé à l'acheter, je veux dire, est-ce qu'il y a les questions d'aérodynamisme, le fait que ça appartienne à un objet qui transporte, est-ce que sa forme, son...
Bon, il y avait un côté super écran que j'ai tout de suite percuté. Et alors, tu parlais des ready-made, c'est vrai que c'est quelque chose que je pouvais pas comme ça glaner sur le bas-côté d'une autoroute, donc il a bien fallu il a fallu l'acheter, en fait. Je sentais qu'il y avait quelque chose, je sentais que l'objet m'intéressait, donc j'ai acheté cet objet, et puis j'ai vécu à ses côtés un petit peu. Alors j'avais pas encore d'atelier, je pense que je l'ai ramené à l'époque, c'était au Beaux-Arts, et puis en fait, bon, la seule chose que j'ai faite sur cet objet, c'est le repeindre à l'intérieur de telle façon qu'il apparaisse comme une espèce de super écran, et même plus exactement comme un téléviseur à tube cathodique, ce qu'il n'y a plus aujourd'hui. Donc c'est un objet qui fait à peu près 2,40 m sur 1,70 m, donc c'est quand même quelque chose d'assez... ça vous surplombe pas, enfin c'est quand même un bel objet. C'est quelque chose qui renvoie toute la... tout l'espace devant. Étant donné qu'il est contre le mur, il a cette propriété de refléter l'intégralité de l'espace qui est devant.
De le refléter en déformant légèrement compte tenu de sa, courbure. C'est quelque chose sur lequel on reviendra.
Oui, d'ailleurs, c'est ça. Moi, je retenais de cette chose, c'était une forme et son bord. Moi, je me souviens à l'époque, bon, ça date déjà un peu, mais je sais que j'étais dans cette idée de lisse, de continuum.
C'est dans cette même exposition qu'il y avait aussi des objets qui faisaient penser à des computers, à des... Non, c'était pas dans la...
Ouais. Non, mais c'est vrai que j'étais... en tout cas, ça correspond à peu près à la même période où j'étais dans le lisse, les courbes. Et d'ailleurs, assez rapidement, je suis plutôt revenu à quelque chose de plus de moins lisse, quoi, de plus...
Tu veux dire comme ça, par exemple, dans les choses...
Pas forcément. Alors, la photographie, quand même, on était dans cet aspect un peu lisse.
Ça aussi, c'est une pièce qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai vue, qui confirme d'ailleurs, d'une certaine façon, le lien qui a traversé au fond tout le XXe siècle et qui est sans doute encore actif aujourd'hui, le lien fondamental entre le ready-made et la photographie, dans la mesure où au fond la photographie est au même titre que le lieu, l'espace d'exposition, un convertisseur des objets du monde en œuvre d'art. Alors, je crois que là, les points de c'est des éléments de condensation, enfin des points de condensation qui donnent ce côté un peu flou par moment.
En fait, à la sortie des Beaux-Arts, j'ai acheté un scanner très haute définition qui me permettait d'aller ausculter toutes sortes d'objets. Alors, j'allais pas forcément très loin. J'ai commencé par scanner les choses qu'il y avait sur mon bureau. Ça a été des gommes, ça a été de la poussière. Et puis, je suis allé un petit peu plus loin. Et en fait, ce scanner me permettait d'obtenir des images de très très haute définition qui avaient un temps de réalisation assez important. Je crois que c'est quelques heures pour cette image. Ça donnait des images de 4 gigas. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais... Et donc là, on a au départ un élément qui est congelé et le temps de la prise de vue va s'avachir complètement, relâcher ses liquides. Je sais qu'à l'époque, ça m'évoquait les chefs canvas, même si c'est un peu lointain.
Ouais, ouais. On n'est pas très loin de Stella, d'une certaine façon. Et ce qui est passionnant ici, dans une image comme celle-ci, c'est que Par définition, la photographie est représentative, elle représente un objet du monde, et l'idée de représenter un objet du monde semble être en contradiction avec une forme de littéralisme, de littéralité, puisque le littéralisme, c'est un bout de bois qui est là, et je ne vois rien d'autre que ce bout de bois et ses qualités matérielles ou morphologiques. Bien, ce qui est passionnant dans une photographie comme celle-ci, c'est que tu parviens avec cet agrandissement, avec ce cadrage, avec ce point de vue, à faire d'un objet qui aurait tout pour signifier un maximum d'une certaine façon. Hein, depuis que la barbaque chez Soutine ou autre s'est accrochée sur les murs, eh bien, on le regarde pour sa forme, pour autre chose. Donc c'était, je pense que le format joue beaucoup dans cet effet-là. C'est effectivement le format d'un tableau américain des années 60.
Moi, je crois qu'à l'époque, si on restait sur l'argentique, on ne pouvait pas faire plus grand.
Oui, tu as été au maximum.
Voilà, c'est ça. Et oui, c'est vrai que le scanner, de par sa, cette temporalité, de par le type de prise de vue, ça fait une. On peut parler de prise de vue cavalière. Ça marche pas du tout comme l'objectif d'un appareil photo, à ceci près que le scanner ne peut pas aller chercher une netteté très très loin, c'est-à-dire qu'on a une plage de netteté assez courte, et du coup c'est vrai que ça permettait d'aller scanner des éléments assez différents et de les faire apparaître sous un angle, sous un jour légèrement différent afin qu'ils apparaissent.
En tout cas, c'est moi, en voyant notamment cette image, que j'ai commencé, peut-être plus encore qu'avec le pare-brise, que j'ai commencé à comprendre ce que pouvait être, en tout cas, un aspect. On ne comprend jamais la totalité d'un travail. Même au fond, un artiste ne comprend jamais la totalité de ce qu'il fait, alors encore moins le critique. Tu disais que tu avais abandonné les choses lisses, les choses... pour des objets un peu autres. Puis je veux pas lâcher quand même tout de suite Duchamp, toi. C'est une question d'amour propre. Je vais pas tout de suite lâcher Duchamp. On va continuer à en parler un peu. Bien sûr, tu as songé à l'élevage de poussière, la photographie de Man Ray, quand tu as fait ça, ou bien tu étais totalement libre de toute référence.
Oh, ça, je ne pense pas, mais sur ce travail-là, j'y ai songé sans doute assez rapidement. Je crois que celle-ci, c'est pas la première de la série, mais c'est quand même assez bon. Il est question de poussière, évidemment, mais on n'est pas vraiment. On pourrait les faire coexister sans doute ensemble. C'est un travail assez différent.
Grand format encore.
Ouais, très grand format.
J'ai mis les dimensions dans ce document parce que les dimensions jouent un rôle enfin capital pour des pièces de ce type.
Oui, là, en l'occurrence, il s'agit pas simplement d'un espace scanné sur lequel j'aurais mis des poussières un peu différentes. C'est aussi là, pour le coup, il y a aussi un travail de composition. Et pour tout vous dire, il y a beaucoup d'artifices dans le sens où ce n'est pas uniquement l'image scannée. C'est-à-dire que j'interviens ensuite et je crée des flous, je rajoute des éléments, j'essaye d'épaissir le.
Si je montrais cette image, c'était. Bien évidemment, pour restituer le parcours et ses débuts, c'était aussi pour vous montrer que la poussière qui est notamment sur le ventilateur, elle a près de 20 ans, hein, puisque là, on est en 2005 et y a un lien dans ton esprit entre la poussière qui est sur le ventilateur ou sur autre chose.
Plus le lien entre, par exemple, le mouvement de rotation lent du ventilateur et le pare-brise dans ces courbes, par exemple une courbe.
Déjà, il est question d'air et de vent dans les deux cas.
Exactement, c'est vrai aussi. Mais ces courbes qu'on a sur le pare-brise, je trouve que là, une courbe est l'illustration parfaite d'un mouvement. Et je retrouvais comme ça cette espèce de vertige de régularité, de continuité que je retrouve dans le mouvement lent et à la fois dans le dans le pare-brise.
Donc deux des trois premières images sont d'une certaine façon relativement efficaces pour comprendre l'exposition. J'essaye pas de construire artificiellement aujourd'hui la solidité du corpus, hein, mais enfin c'est quand même intéressant de voir, d'essayer de mettre en relation les. On peut avancer ou tu
Bien
veux
sûr, tout à fait.
Ah, bon, ouais. Après on va passer aux objets, mais la photographie c'est une photographie un peu plus tardive. Est-ce qu'elle procède du même geste, du même où il y a quelque chose à dire de différent à propos de cette photographie?
Bon, il y a déjà, c'est toujours l'utilisation, c'est encore une fois l'utilisation du scanner. Voilà. Oui, ensuite, ça reste c'est une espèce d'exploration ordinaire des choses qui m'entourent. Le scotch, forcément, m'intéresse. Mais c'est assez. Il y a un côté, quelque chose d'assez primaire dans l'utilisation du scotch. Là, moi, j'ai des jeunes enfants chez moi, notamment une petite fille qui a 2 ans, qui adore manipuler le scotch. Et au fond, je crois que ça procède d'un peu de la même façon. C'est le même. Voilà, c'est une espèce d'objet assez insensé, industriel, brillant, collant. Ça me permet de en le manipulant, en scannant ces choses-là, j'ai toujours l'espoir, je caresse l'espoir de trouver quelque chose, en fait, trouver un angle de vue qui va permettre de faire monter quelque chose.
En tout cas, on voit là une différence, mais il y a d'autres œuvres. Je m'en tenais là au chapitre photographique, il y a d'autres œuvres qui vont montrer ça. Mais on voit déjà une forme d'inflexion dans la façon dont tu, dans ton rapport à l'objet industriel. Le pare-brise, il était en magnifique état. Il était d'une certaine façon, enfin, j'ai pas souvenir d'avoir fait un constat d'état à l'époque, oui. Mais il avait l'air pas mal. Hein, mais là, déjà, le scotch, il a déjà un peu vécu, quoi. Il est donc. On voit que c'est quelque chose qui va comme si tu allais t'éloigner peu à peu de ce qui, d'une certaine façon, était un peu troublant et avait constitué un point aveugle dans l'histoire du ready-made et dans sa réappropriation dans les années 80, à savoir le parfait état, l'objet qui glorifie.
Ah oui, j'étais vraiment sur. Enfin, c'est ça, en sortant des Beaux-Arts, j'étais vraiment dans quelque chose de cristallin, lisse, et je me dirige très clairement vers quelque chose d'un peu plus rugueux. Là, en l'occurrence, cette image-là, elle est quand même assez. Ça reste encore très brillant, très rose pâle. En plus, c'est contrecollé sur une espèce de plastique alvéolaire. C'est très aérien. Ça reste, c'est quand même assez. Donc, globalement, c'est assez brillant, assez glissant. Alors là, pour le coup, on quitte.
On reste dans le domaine de l'alimentaire, hein, avec après le star steak, on a la pâte alimentaire. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette œuvre ? C'est le cube ou c'est la pâte qui t'a intéressé prioritairement ?
Joker. En fait, non, c'est pas le Joker, mais en fait, le souvenir que j'ai de cette pièce, c'est surtout d'avoir passé un temps considérable pour pour monter la pièce, c'était très long, c'est sûr, mais je pense que j'ai passé peut-être autant de temps à trouver le moyen d'élever, de faire l'élévation de cette chose, et donc de trouver un système de grille me permettant d'évoluer pas à pas jusqu'à former ce cube qui n'a pas de. C'est autoportant, il n'y a pas de colle. Ensuite, l'idée à l'origine, je dois dire, je suis un peu. Alors, il y a quand même quelque chose qu'on retrouve assez. Enfin, très tôt dans mon travail, il y a cette idée de créer de la matière, ou une idée qui s'apparente à ça un peu. Trouver un moyen d'agencer un élément, le démultiplier et essayer de créer un. Alors c'est pas forcément un corps d'ailleurs, parce que dans l'idée j'aimerais bien qu'il puisse se développer comme ça à l'infini. C'est vraiment reprendre un peu l'idée de la matière. Et donc là, dans sa cabine, là, en verre, l'idée, c'était de jouer un peu... Bon, c'est un objet qui fait 20 cm de côté, et moi qui m'a rappelé... je trouve que ça l'envoie... Enfin, on est devant quelque chose qui pourrait très bien rappeler un processeur, par exemple. Et donc, j'avais pensé à un système de présentation comme on pourrait... trouver à la Fnac, par exemple, devant un téléphone, le dernier téléphone portable. C'était un peu l'idée, quoi.
Alors, on peut aussi, bien sûr, mais ta référence est meilleure. On peut se souvenir aussi de Larry Bell et tout objet riche de... En tout cas, c'est ce cube avec des spaghettis, c'est le père de toute une famille dont on continue à voir les enfants dans l'exposition ici. Alors, ils m'ont toujours un peu troublé optiquement, mais aussi métaphoriquement. Ces cubes, dans la mesure où je me suis toujours demandé si tu prêtais une valeur métaphorique au ressort, ou bien je me suis vraiment, au fond, toujours demandé quelle était la place de la pure optique dans ton travail. Je me souviens, alors je ne sais pas dans quelle exposition je l'avais vu, mais je me souviens d'une vidéo qui m'avait beaucoup frappé, qui s'appelait, alors je ne m'en souvenais plus, mais j'ai regardé pour préparer ça, qui s'appelle « Œil pour œil », hein, où là, c'est vraiment l'œil qui est, l'œil, l'organe de la vision qui est dans son organicité touchée. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment un fil à tirer du côté de l'optique, du trouble optique, du nerf optique, non, enfin... on passe si ça t'intéresse pas. Enfin, je veux dire,
c'est...
Ouais, non, mais
faut rebondir là comme ça. Peut-être après, je sais pas.
Après, d'accord. Puis, non, mais tu veux dire autre chose sur ces cubes. Tu admets quand même qu'ils troublent la vision.
Oui, oui, oui. Et en fait, c'est d'autant plus vrai qu'on est loin. Mm-hmm. En fait, parce qu'ils ont tendance à disparaître plus on est loin, en fait. Et non, ce que je peux dire de cette pièce, par exemple, j'ai une petite anecdote, c'est qu'à l'origine, ils étaient censés, chacun des matelas, être vertical. Et la souplesse de l'élément, enfin du matelas, a fait qu'il n'a pas été possible de les poser verticalement. Et donc, on n'allait pas les jeter. Donc oui, de toute façon, on était parti sur l'idée de faire un cube. Et en fait, c'était... En fait, c'était très bien parce que on a obtenu quelque chose d'assez différent qui était inattendu, hein, très clairement. Mais c'est souvent... moi, je ne suis pas quelqu'un qui réfléchit sur les... Il m'arrive de réfléchir des fois, mais sur mon travail, c'est généralement... C'est ce que je présente n'est pas le fruit d'une longue réflexion. Il est plutôt question d'ajustement et de... Je ne vais pas dire d'heureux accident, mais plutôt de... On va dire que je crée les conditions de l'accident, c'est-à-dire que en manipulant les choses arrivent. Et là, en l'occurrence, ces trois cubes, c'était pas quelque chose qui... J'avais pas du tout imaginé ça, mais on a eu à peu près... il nous est arrivé à peu près la même chose là sur l'exposition. C'est-à-dire qu'on était parti sur ces ressorts qui recouvrent la grande salle. J'avais pensé à l'origine, par superposition, rajouter des ressorts... pour que ça apparaisse un peu comme des tableaux. Et bon, ça ne marchait pas du tout. Donc avec le stock de ressorts que j'avais, et ben on a essayé des choses, et puis on est allé vers cette espèce de trou noir un peu. Mm-hmm. Et en même temps, je n'ai pas cherché très longtemps. Hein. L'idée, c'était de faire un cube. Donc s'il n'était pas comme ça, il était comme ça.
Alors tu parlais des cubes qui sont comme ça, donc en voilà un autre. Moi, c'est une œuvre qui m'apparaît... Elle est présente dans l'exposition, une œuvre qui m'apparaît alimenter précisément ce paradigme optique de ton travail, en tout cas ce paradigme du trouble, de du penché, du déstabilisant pour le regard. Non, enfin.
Si. On me demandait si dans mon travail c'était important de, comment on appelle ça, lorsqu'on lorsqu'on regarde les choses longuement, c'est un nom, on dit... Comment ? Voilà, c'est ça. Si j'avais un travail, si je considérais que j'avais un... voilà, tout à fait. Et bon, alors, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais...
Et pourquoi des stylos ? Non,
pourquoi des stylos ? Ouais, tout à fait. Bon, en fait, peu importe que ce soit des stylos, ça aurait pu être toute autre chose. Oui, déjà, c'était ça. Il y a la pointe. D'ailleurs, je me suis posé la question il y a quelques jours si on ne pouvait pas retourner la pièce et la faire un peu évoluer sur le mur avant de la replaquer de l'autre côté. Mais ensuite, bon, bah, pourquoi le stylo ? Parce qu'il a ses caractéristiques, justement, précisément géométriques, optiques. Qui, et puis, bon, pour le coup, là, l'assemblage était plutôt assez, assez évident. C'est tout de même, c'est parce que c'est un produit industriel. Je pense que c'est Monsieur Bic, hein, qui, enfin, ces ingénieurs qui ont imaginé c'est assez facile à ranger comme ça. C'est évident.
C'est
tout de même,
c'est un objet magnifique, mais c'est la seule pièce dans cette exposition où l'objet industriel est en si bon état d'une certaine façon.
Oui. Alors, j'ai pas de. En fait, bon, c'est vrai que j'aime bien les.
C'est la pièce heureuse de l'ensemble, d'une certaine façon, non ? La pièce.
Non, mais cela dit, je peux montrer tour à tour des choses très, très propres, très clean, et puis d'autres beaucoup moins. Il faut que ça se. Il faut qu'il y ait un sens, quoi. C'est-à-dire que les objets qui ont une patine, généralement, se délivrent plus, quoi. On comprend. Leur nature, on comprend. Là, bon, ça n'a aucun
intérêt. Vous parliez d'un. C'était juste parce que c'était des tubes, là, on voit là, juste des tubes. Là aussi, on est. C'est l'idée, malgré tout, du porte-à-faux, de la déstabilisation, comme si c'était le ready-made dans son histoire qui se trouvait d'un seul coup comme un peu déstabilisé, placé en porte-à-faux, ou quelque chose de ce type.
Non, je ne pense jamais à ce genre de choses. Mais là, ce qui me plaît, il y a un détail qui me plaît dans cette pièce, c'est que évidemment, si vous en prenez 4 ou 5, avec cet angle-là, ben, ça tombe. Mais si vous en prenez un certain nombre, ça ne tombe plus. Je pensais à ça.
En tout cas, c'est l'effet du nombre et de la masse. D'accord.
Et c'est une pièce qui me plaît notamment parce que, pour l'avoir montée plusieurs fois, les personnes qui m'aident au montage, le temps du montage, on installe une espèce de cale en bois, et puis une fois que c'est terminé, on l'enlève. Et à deux reprises, j'ai été surpris, à chaque fois qu'on a enlevé la cale en bois, les gens se sont jetés dessus parce que ça leur semblait impensable que le truc tienne debout. Donc, et en fait, ça tient, ça se joue à peu de choses, hein, mais ça tient parfaitement.
Mais là, ce qui t'intéresse, c'est la forme de l'ensemble ou le fait que ça tienne debout ?
Ouais, y a un peu des deux, mais je dirais peut-être davantage le fait que ça tienne, alors qu'a priori, il n'y a pas de mystère, enfin, il n'y a pas de poids caché, j'ai pas mis du plomb. Ouais.
Mais ça crée une tension très, très, très forte qui fait penser à un certain nombre d'œuvres du post-minimalisme avec des objets comme ça dont on imagine volontiers qu'ils pourraient, à Kuhn par exemple, toutes les sculptures de Kuhn avec des planches en résine dont on a l'impression qu'elles vont se rompre, qui sont courbes. Non, c'est une pièce absolument intéressante qui combine deux grands paradigmes de l'histoire de l'art, ce ready-made et ce qui est arrivé à la sculpture au moment du post-minimalisme, hein, où les artistes s'intéressaient au moins autant à la force qu'à la forme.
On n'est pas très loin des bics, hein.
Oui, ouais, sauf que les bics, on n'a pas peur qu'ils tombent. Là, c'est quand même une des dimensions fortes une dimension absolument forte de cette pièce.
C'est plusieurs tonnes.
Comment ça ?
C'est plusieurs tonnes, c'est des rouleaux qui font 1,50 m sur 20 cm de diamètre. Je crois que ça pèse 60 kg un rouleau. Ça pèse un poids de dingue.
Tout le monde est peur. Alors, la calme.
Oui, c'est pour ça qu'il faut une sacrée sang. Il y a une tension assez importante. Ouais. Ouais,
et tu as expérimenté plusieurs nombres de rouleaux ou c'est juste bon nombre qui convient?
Alors, tu as vu la dernière à la galerie Christophe Gaillard, donc des rouleaux un peu plus petits où, là, je sais pas, il doit y avoir une bonne, je sais pas, 150 peut-être. Mais bon, à chaque fois, c'est une configuration très, très différente.
Alors, on est dans la...
Oui, alors, oui. Alors, bon, On est en présence d'une commande. C'est une pièce que j'aime beaucoup. C'est une pièce réalisée à l'aide donc de masques Covid. Et bon, j'ai commencé par bon donc ça c'est tout ça s'est mis en branle pendant la crise Covid évidemment. Et je crois que je suis allé à Franprix. Le serveur avait une espèce de pare-brise hein, devant le visage. Et l'objet m'a tout de suite tapé dans l'œil et j'ai dû en commander quelques-uns et puis voilà petit à petit je les ai combinés puis ça a fait ces espèces d'épines dorsales.
Là on est dans sans doute un des exemples l'exemple maximal du l'agencement que tu mets au point éloigne totalement l'origine, la fonction de l'objet, à tel point que quand j'ai vu ces objets, si tu m'avais pas dit ce que c'était, sur le curseur que tu déplaces, il y a la fonction et puis la forme. Là, on est vraiment du côté.
Oui, c'est-à-dire que mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'agence des choses, il y a peut-être une exception, mais généralement, je me moque pas mal de l'élément en question. C'est pas le propos n'est pas de magnifier l'objet en question, c'est de réaliser quelque chose avec. Pour autant, comme j'aime pas j'aime pas trop le mystère. Bon, là, c'est pour le coup, c'est pas le cas, mais souvent les choses sont appelées par leur nom. Je trouve ça plus simple. Je trouve ça plus simple.
Bah là, ça donne une forte indication quand même le titre, hein, même. Ouais, Alors, disons que c'est la torsion du serpentin avec les visières qui me permet de passer à ce chapitre, qui est un chapitre important de ta production, un chapitre tout à fait essentiel. Alors, je ne sais plus pas de quelle est la date du premier des concaves.
C'est le premier. C'est le premier. Donc là, 2006, je pense que j'ai dû le récupérer. Non, j'ai dû le récupérer 2 ou 3 ans avant. Dans l'Est parisien, c'est des choses que je trouve dans l'Est parisien.
Donc il faut que tu dises ce que c'est peut-être.
Alors c'est de l'affichage sauvage, c'est des accumulations d'affiches, c'est principalement des affiches de concerts. C'est des choses qui poussent, c'est vraiment des choses qui poussent en fait. Aujourd'hui je sais à peu près, même si j'ai encore quelques surprises, je sais à peu près où cela se passe. Donc je suis un peu un jardinier qui va régulièrement voir ce que ça donne et lorsque la forme lorsque c'est assez nourri, lorsqu'il se passe quelque chose, et ben je les récupère, je les ramène à l'atelier et puis on commence à travailler dessus. Alors les premiers j'évitais de les toucher et puis petit à petit j'ai commencé à les réparer, les manipuler aujourd'hui, c'est quelque chose. Je les recompile complètement. En fait, je vais chercher des affiches, quelle que soit l'épaisseur. Au fond, il en faut quand même un petit peu. Il faut que ce soit usé. Et moi, je les vois un peu comme des blocs de temps. Et donc, c'est des choses que je sais. Je sais manipuler, c'est les faire monter. Hein.
De sédimentation. Et la couleur, il y a quand même quelque chose qui consiste à faire disparaître la fonction première de ces affiches.
Bah assez vite, en tout cas, j'ai réalisé qu'une couleur trop vive nuisait instantanément à la forme. Donc j'ai plutôt utilisé des tons, des demi-tons, des choses un peu rompues, où ça pouvait être, je sais pas vif si c'est le mot, mais bon, fallait quand même que j'utilise des couleurs un peu rompues pour que la forme, pour que tout ça coexiste, quoi. Il fallait, en grosso modo, il fallait pas que la forme ou la couleur, il fallait pas que l'un ou l'autre prenne là-dessus, le dessus sur l'autre. Et
alors, tu m'as dit tout à l'heure que tu songeais rarement à des problèmes de référence à l'histoire de l'art ou des choses de ce type lorsque tu travaillais tes œuvres. Est-ce que là, malgré tout, dans un coin de ton esprit, la question des affichistes, de Dins, de Villeglay, de Dufresne, de cette partie-là aussi. Est-ce que c'est un geste qui prolonge celui ou pas du tout, ou c'est intéressant de...
Il n'y a pas d'évidence en ce qui me concerne. Je vois pas le. C'est pas du tout évident, mais je connais. Oui, évidemment, c'est des.
T'aimerais bien que ça soit montré à côté dans une salle où à côté il y aurait les travaux des affichistes. Ça t'intéresserait ou pas?
Oui, éventuellement. Faut. Si c'est bien montré, oui. Mais je parle pas forcément du tout ensemble. Si c'est bien.
Non, mais parce que. Ces œuvres-là vont t'échapper de ce côté-là aussi, nécessairement. Enfin, je veux dire, je ne sais pas. Non ?
Bon, moi, je me vois un peu comme un opportuniste, hein, mais dans le bon sens, assumé. C'est-à-dire que je veux dire, toutes ces choses, comme je te dis, moi, j'adore l'histoire de l'art, c'est des choses... Moi, il me semble déjà avoir dit... Quand j'étais au Beaux-Arts, j'avais... Je venais d'acheter, comment ça s'appelait ce truc, Art at the Turn of the Millennium, ces gros machins énormes. Ouais. Et en fait, je trouvais ça super d'avoir ça sous le bras pour, je sais pas, pour piocher. C'est-à-dire que je cherchais pas des trucs, j'ouvrais pas le machin pour emprunter, mais je trouvais ça, il y avait un côté rétinien, on passait d'une page à l'autre. Et je suis très content d'avoir... vu les affichistes, d'avoir vu bon, et ensuite c'est difficile de répondre à ta question, enfin c'est pas que c'est difficile, c'est que oui, j'ai le sentiment, comme on dit, d'être sur les épaules de géants. C'est-à-dire que je sais très bien que derrière des gens ont...
Non, mais au fond, ça pourrait être, tu pourrais être là sur les épaules de quelqu'un d'autre que cela, peut-être, ouais.
Je crois qu'au Beaux-Arts, les artistes qui m'ont peut-être le plus marqué, c'est Clifford Steele, c'est les peintres américains qui m'ont vraiment, tout à la fois leurs tableaux et aussi ce qu'ils écrivaient me faisait marrer aussi. Ouais. Je trouvais ça assez...
Alors, je voulais en montrer une troisième, d'une part pour accréditer l'importance des concaves dans l'œuvre d'Éric, mais pour aussi, grâce à cette pièce, évoquer... la question de l'or qui est présent dans un certain nombre de tes pièces et qu'on peut voir d'une certaine façon sous l'angle de la magnification, de la dignification, de l'anoblissement de l'objet de rebut. Est-ce que c'est bien comme ça qu'il faut le voir?
Alors il faut le voir, la métallisation, que ce soit sur les concaves ou les papiers millimétrés, la métallisation a pour effet de faire monter les choses tout de suite, les événements, tout ce qui se passe dessus. Ça, mais un peu à la façon aussi du pare-brise, hein, ça reflète tout de suite, immédiatement. Ça s'appelle concave, le pare-brise s'appelle convexe. Et ensuite, que ce soit les couleurs ou la teinte de cette métallisation, moi, en fait, peu importe, au fond, la couleur, c'est plus le potentiel du...
C'est une fonction essentiellement...
C'est vraiment... Oui, voilà, c'est ça. Et ça aussi, non plus, je n'ai pas honte de le dire, il y a un peu beaucoup de concaves dorées, parce qu'il y a c'est étrange, il y a plus de succès sur les concaves dorées que sur les concaves...
Tu m'étonnes.
Voilà. Et bon, pour autant, moi, ça me déplaît pas forcément, parce qu'il y a un côté spatial, en fait, qui bon.
Ben là, ça prend presque davantage encore que sur les autres images, je ne sais pas pourquoi, mais un côté, alors même qu'il n'y a pas beaucoup, sauf ces James Bond de voitures dorées, mais il y a un côté carrosserie de voiture, là, encore plus fort sans doute avec, je pense moi, peut-être quand je vois cette pièce-là, davantage qu'aux affichistes, je pense à Chamberlain ou des choses comme ça. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait étonnant. L'objet qui, par sa position murale, pourrait sembler convoquer l'histoire de la peinture, convoque beaucoup plus, là, ici, l'histoire de la sculpture, me semble-t-il, encore plus quand c'est doré que quand c'est blanc. Juste.
Voilà, et puis la version qu'on a dans la grande salle est... on peut la considérer comme un objet tableau, mais enfin, on est quand même plus...
C'est pas celle-là, mais...
Oui. Pour moi, c'est quand même plus... On est plus dans la sculpture, ça, c'est sûr.
Dans le relief. Alors ça, c'est une exposition de toi que je n'ai pas vue. Je le regrette beaucoup en voyant ces images.
Donc c'est à la Verrière, c'est 2008, c'est ça. Et... Donc, il faut imaginer de grandes feuilles en résine. Quand je dis grandes feuilles, je crois que ça fait 5 mètres sur 9. Et voilà, c'est ça. Et j'ai trouvé, je vivais dans un squat à l'époque. Ça a quelques avantages, c'est qu'on avait une espèce de salle de danse. Ça m'a permis d'imprégner des grandes laies de fibres. Les rassembler pour faire de grandes plateformes, de grandes feuilles. Et ensuite, je mettais simplement une grande bâche polyester par-dessus et je recommençais. J'ai fait ça successivement 5-6 fois.
Ça me fait vraiment penser à ces pièces-là.
Ah oui, complètement,
c'est
bien
la
sûr.
Version au sol de ces pièces-là, avec le mouvement, la déformation. Et je voudrais attirer votre attention aussi sur l'autre pièce qui est vue ou entrevue sur ces images, qui sont ces panneaux au mur et qui me font penser au fond à des déflecteurs pour réactiver en ce moment de notre conversation le paradigme du vent, de l'air et de qu'on avait évoqué déjà avec le pare-brise. Là, on est dans cet imaginaire.
Ben, et puis on reprend complètement l'idée des radiateurs qu'il y a dans la salle 2, hein, qui sont un peu penchés, un peu vers le. Oui, c'est vrai.
Et tu pensais l'interaction.
Alors là, ça s'appelait miroir d'Archimède. Hein, l'histoire d'Archimède, c'est.
On va revenir sur Archimède.
D'accord.
C'est un point essentiel, mais continue.
Oui.
Non, vas-y.
Vous connaissez l'histoire d'Archimède, hein? Enfin, des miroirs d'Archimède.
Ah, ça, on y reviendra après, le corps plongé. Là, on est.
Donc Archimède avait trouvé le moyen d'empêcher les bateaux d'arriver en dirigeant des miroirs sur les voiles des bateaux. Et là, on est à la Verrière, donc il y a une grande verrière avec plein de lumière. Et là, les photos ont été prises la nuit, donc forcément, c'est pas... Mais les panneaux étaient censés, comme ça, faire danser la lumière au-dessus d'une espèce d'océan... un peu artificiel, enfin, c'est pas artificiel, c'est ni vrai ni faux. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
J'ai pas vu l'exposition, mais on a le sentiment d'une forte synergie entre les deux œuvres, comme si l'effet des déflecteurs avait provoqué ces mouvements dans les feuilles de résine, enfin quelque chose comme ça, des courants d'air absolument violents qui auraient d'une certaine façon. Enfin, il y avait quelque chose. Tu avais pensé les deux pièces en rapport.
Je ne saurais plus dire qu'est-ce que j'ai pensé à quoi, quand, je ne sais plus. Mais moi, je me souviens que ces panneaux, c'est ça. J'avais cette idée d'horloge solaire là-haut. Donc, jouer vraiment avec la lumière. Il y en avait trois, je crois, c'est ça.
Alors, après tant de mouvements, tant de souffle, on va se reposer un peu avec le fauteuil, même si ce n'est pas un fauteuil fait pour qu'on s'y asseye. Vous voyez les matériaux qui ont été utilisés pour le faire. Alors là, de temps en temps, dans le travail, Il y a des objets tout faits en forme ou qui ont déjà vécu. Là, on est dans un autre aspect de la réflexion sur le monde des objets. Tu peux nous expliquer comment tu as fait.
On peut parler d'empreinte en quelque sorte. Hein. J'ai traîné un fauteuil et j'ai simplement habillé le fauteuil comme on. Peut nous arriver de faire pour éviter de le salir donc c'est de là j'ai employé de la fibre et ensuite je l'ai simplement imbibé de résine donc une fois que ça a pris je l'ai secoué pour que le fauteuil pour qu'il soit libéré de son fauteuil justement et donc ne reste que l'empreinte. C'est un objet qui est assez léger, qui est très rigide, très très légère. Et en effet, il faut éviter de s'asseoir dessus parce que c'est pas du tout, je reviens pas derrière, c'est pas poli, c'est plus que rugueux, c'est très agressif, c'est une pièce très très agressive.
Malgré la couleur claire vive, il y a quelque chose d'un peu fantomatique dans cette pièce, hein. C'est comme le fantôme, le souvenir de quelque chose qui a pu avoir une utilisation et qui là est emmené complètement ailleurs. Alors, je voulais montrer cette image parce que je me suis demandé s'il y avait un paradigme du siège ou pas dans ton travail, parce que malgré tout, il y a quand même assez souvent des sièges. Est-ce qu'il faut lui prêter de l'importance ou tu viens me dire non, c'est comme ça, j'ai trouvé, ça c'est une pièce tout à fait magnifique, hein, de sièges d'aviation avec ce tissu tigré et puis cette lampe.
Je sais plus si c'est RLG ou je sais plus, j'ai trouvé ça aux puces, j'habite à côté des puces en fait.
Le siège, alors, ça t'intéresse particulièrement ?
Oui, alors le siège me plaît beaucoup, c'est vrai. J'aime beaucoup m'asseoir, c'est vrai. Et quitte à s'asseoir, j'aime bien choisir mon siège. Non, mais
Alors, cette pièce-là, bien sûr, il faut sans doute la mettre en relation avec une pièce que vous avez vue dans l'exposition, qui est, au fond, structurellement assez proche, hein, un siège et une lampe, hein, l'association des deux, pourquoi ? Là, bien sûr, il est facile de lui trouver une explication, puisque tu as parlé d'ailleurs de trou noir tout à l'heure, donc ça m'a semblé intéressant qu'on évoque. Okay.
L'image d'avant, c'est vrai que c'est quand même souvent l'endroit où on est assez aveuglé par l'ouverture d'une fenêtre, d'un hublot. Il y a subitement une espèce de lumière hyper forte. Ensuite, revenons à l'autre. J'ai pas grand-chose à dire sur cette pièce.
Ouais. On l'oublie.
En fait, j'aime bien aussi. J'aime bien quand on regarde des images. J'aime bien quand il y a une espèce de cohérence qui s'impose. C'est super. En même temps, j'aime bien dans mon travail. Bon, déjà, quand il y a trop de cohérence, ça peut être vite assez chiant, selon moi. Et j'aime bien aussi. Des fois, il m'arrive de faire des choses. Je vois pas forcément de cohérence avec la pièce d'avant. Mais bon, bref. Et alors là, c'est un siège glané, pareil, aux places du jeu de balle. J'ai réussi à mettre la main dessus. C'était pas très compliqué. Il y a un traitement du siège. C'est vrai que j'ai essayé de l'emmener un peu vers un. On voit bien que c'est pas du bronze, mais enfin c'est vrai que j'ai essayé de caresser un peu de sorte qu'il sorte un peu de. C'est pas l'objet brut en fait. Il y a une transformation, une petite transformation.
Et on songe forcément au corps déformé, hein, de King.
Ah oui. Contre, il était comme ça. Ah ouais. Oui, il était. C'est ce qui m'a tapé dans l'œil. Hein, c'est cette espèce de difformité.
C'est aussi pour ça que tu l'as appelé.
Tout à fait, complètement. Ouais. Alors ça, par contre, je l'ai pas eu tout de suite l'idée. Hein, mais il y avait un truc anthropomorphe dans cet objet qui m'a qui m'a plu tout de suite. Le grain de lumière qu'il y a dessus, c'est quelque chose que j'avais pu jouer avant dans une autre configuration. C'était juste un grain de lumière que je mettais dans un mur, c'est ça. Et bon.
Mais là, plus encore peut-être qu'à l'objet détérioré, qu'à l'objet abîmé, c'est aussi le motif de la torsion, de la déformation qui me paraît t'avoir intéressé dans cet objet, non ? Et c'est bien pour ça que tu l'as appelé Hawking, même si tu es sans doute un fan de science-fiction, de choses de ce type, et que voilà.
Oui, oui, c'est pas un hommage. C'est un clin d'œil, on va dire.
Alors là, tu as oublié de nous parler quand même de ce qu'il y a de ce que tu as fait au siège, quand même.
Oui, bon, je suis revenu avec une bombe noire et une bombe dorée. Oui, peut-être pour nous. C'est une histoire de mise à distance. J'essaye de trouver une relation à l'objet qui. Bon, voilà, je crois peut-être que. Bon, cela dit, je ne suis pas arrivé là immédiatement parce que l'objet apparaît dans un. Sur un livre, il n'est pas peint, en fait. Et je suis revenu dessus après. Et il y a eu d'autres objets qui ont subi le même traitement. Pareil, de sorte que ça les. Peut-être qu'on les perçoit un peu plus comme des sculptures que comme des objets ordinaires. Ouais.
Alors, je ne sais pas, derrière Stephen Hawking, là, j'ai envie d'imaginer que cette tache au milieu du paillasson, ça pourrait être un de ces mini trous noirs dont Hawking avait émis l'hypothèse et pour lequel il est devenu célèbre. Alors là, on est en revanche dans un objet qui te plaît parce qu'il a vécu, un objet qui t'intéresse, qui retient ton regard parce que sa vie, on ne sait pas exactement ce qu'il a vécu, mais en tout cas, ça n'est plus l'objet, le ready-made, l'objet tel qu'en lui-même, tel qu'il était livré par l'industrie et que Duchamp avait acheté, même si Duchamp se méfiait de ces ready-made parfaits. En 68, quelques mois avant sa mort, il avait dit à quelqu'un, écoutez, ça me gêne que vous prêtiez trop d'attention à ces ready-made, que vous les regardiez, parce que vous allez finir par les trouver beaux. Ce qui était pour lui, au fond, la crainte, la perte du stade, la dissipation du statut conceptuel du ready-made qu'il voulait absolument préserver. Là, ils ont vécu, il leur est arrivé quelque chose, donc on est tout à fait fondé à les regarder, à les trouver beaux.
Oui, il y a plusieurs choses là-dessus. C'est... Bon, je pense que c'est quelque chose qui tout d'abord m'intéresse parce que il me semble que très très souvent les processus inconscients, là pour le coup, les gens qui passent dessus, peut-être, bon, donc on est devant quelque chose qui se passe. Processus à l'œuvre donne lieu donne des choses qui, je trouve, moi, fonctionnent souvent beaucoup mieux en fait que lorsqu'on essaye de faire quelque chose en maîtrisant les choses. Il y a ça, il y a cet aspect. Il y a un autre aspect, c'est ce qui me plaisait dans ce travail, c'est je trouvais qu'on était devant quelque chose qui vous emmenait vers une image de tableau qui pourrait exister dans les années 50, 60.
Ça pourrait être on pense à un certain nombre d'œuvres de l'art informel, notamment italien, des années 50, 60.
Alors ensuite, je vais complètement contredire, c'est-à-dire qu'il y en a une bonne partie d'entre eux sur lesquels je revenais, en fait. J'allais mettre des chewing-gums, j'ai un peu d'encre, parce que pareil, il n'y a pas non plus... enfin, moi, je suis dans l'idée de c'est pas tant de séduire la personne qui va regarder, c'est de proposer quelque chose qui peu importe au fond qu'il ait été fait comme ça, comme si... Bon, globalement, l'idée générale, c'est ça, c'est un truc qui a été fait, obtenu sans que quelqu'un le surveille. Mais ensuite, à l'arrivée, si pour le lui donner un peu de corps, pour lui donner, j'en sais rien, pour que ça, il faut que j'intervienne dessus.
En outre,
pourquoi je n'interviendrai pas
il
dessus
est pas en fait. Légitime de coller un chewing-gum sur un paillasson.
Déjà, tout à fait, complètement.
On s'attend.
Oui, oui. Non, mais par contre, mais la question est pas si. Non. C'est-à-dire que je suis allé les chercher, les chewing-gums. C'est-à-dire que je suis allé les chercher dans la rue, qu'une homme de cutter a gratté pour ensuite le coller. Parce que sinon, si tu juste le mâches, le mets dessus, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, ça marche pas du tout, du tout, du tout.
J'ai moins d'expérience que toi. Là,
je sais pas, mais non, mais j'ai dû faire l'erreur, j'ai dû essayer, ça marchait pas.
Et là encore, malgré tout, on ne peut pas ne pas penser à l'idée que ce paillasson, qui est un objet bas, misérable, se trouve élevé une fois qu'il est au mur, dignifié dans cette position statutaire de tableau. Non, pas du tout. C'est
si, si. Mais je souvent. Alors. C'est encore un autre propos, mais je pense que ça croise celui que tu... C'est-à-dire, bon, moi, dès le départ dans ma pratique, de toute façon, que ce soit l'œuvre photographique, les tableaux, je donne pas de consignes particulières à la personne qui va le manipuler, que ce soit un musée ou un collectionneur, il peut l'accrocher à peu près dans n'importe quel sens.
Tu veux dire qu'on pourrait le présenter
à plat, verticalement mais pour autant, bon là, il y a très clairement, il y a un truc. Parce que des fois, ça suffit en fait pour voir. En fait, on a peut-être que l'artiste a plus l'habitude de regarder les choses de biais, de travers. Mais enfin, même, moi, je me fais surprendre tous les jours à m'apercevoir qu'il suffit de regarder un verre à l'envers ou n'importe quoi, et puis tout change en fait. On est complètement, ça donne. On n'est pas si fortige, on ne voit pas les choses. On les voit pas, les choses. Il faut, et là, bon, je trouve, c'est heureux, ça marche bien. Voilà, on y va, quoi.
Ça, c'est un objet énigmatique pour moi. Alors, en fait, je l'ai mis là, non pas parce que j'avais quelque chose à en dire, mais parce que je voulais que tu me dises.
C'est un objet, c'est un tableau, on va dire. En tout cas, ça peut apparaître comme un tableau. C'est une série d'objets qui étaient, que j'ai récupérés un peu partout. C'est des objets qui sont arrivés au bout, je les ai pris avant. Au bout du bout. Je les ai pris avant qu'ils disparaissent. Objet, en fait. Ça, c'est juste en fait, c'est un plateau que j'ai récupéré dans une brocante et la personne vendait des chaussures de seconde main, des chaussures qui devaient être à peu près dans le même état que la planche. Et donc, j'ai trouvé cette planche tellement dingue, je suis rentré dans une négociation. Les gens peinent à comprendre généralement quand je veux récupérer ce genre de trucs. Et donc j'avais proposé 5-6 objets qui étaient à leur façon, à chaque fois vraiment arrivés au bout. Et moi je les ai juste cueillis. Et donc ils sont présentés sur le dos d'un miroir. Donc cet élément qui, lui, a priori, est hyper stable. Hein, s'il n'y a pas de tremblement de terre, s'il ne tombe pas dans 100 000 ans, dans 10 millions d'années, il n'aura pas bougé. Et donc, c'était une manière de les planquer sur un truc qui, ça ne bouge pas. Et puis, bon, c'est vrai que si les conditions d'humidité, de chaleur, il n'y a pas de raison que ce panneau évolue.
Non. S'il a la chance d'être dans une bonne collection, il ne bougera plus quoi, maintenant. Donc tu l'as sauvé.
Oui, c'est ça. Ouais.
Est-ce que cette dimension-là t'intéresse, de sauver des objets?
Lorsqu'ils méritent d'être sauvés. Sinon, j'adore cette pièce. J'aime beaucoup cette pièce. Vous savez pourquoi? Il y a une chose pour laquelle il y a une raison qui est un peu bête pour laquelle j'aime cette pièce, c'est que j'ai un galeriste à Hong Kong extraordinaire qui doit beaucoup aimer mon travail. Donc j'ai récupéré ce carton, je sais pas où dans la rue. Je trouvais, en fait, il avait une usure que je comprenais pas. En fait, là on voit pas bien, mais très abîmé, des petits trous, des trucs. Je récupère cette chose et pareil, je le caresse un peu. Quand je dis je le caresse, il y a une espèce de traitement qui le rend un peu indéterminé. Si on se rapproche, on voit bien que c'est pas du bronze. Mais en même temps, quand même, il a pas connu l'incendie. On sait pas trop, en fait. Et c'est un beau carton qui fait 100 sur 100 sur 60. Et donc, je dis à mon galeriste, il faut une super caisse. Il faut une super caisse avec des trucs molletonnés, des machins. Et je lui dis que c'est une super pièce. Il me dit, on y va. Et quand il m'a vu sortir le carton, comme j'étais très sérieux, il a pas tiqué. Mais j'ai senti quand même que... D'ailleurs, il m'a demandé très gentiment s'il acceptait que je jette le carton, parce qu'il ne se sentait pas de me renvoyer.
Mais alors, elle existe toujours, là ou...
Non, elle n'existe plus. Oui, avec lui, je fais des concessions parfois, parce qu'il met tellement... Il investit tellement que parfois je lui dis... D'ailleurs, je crois qu'il y a une pièce qui nous intéresse tous les deux, qui arrive, qui, elle aussi, est passée... j'ai pas pu la retenir, elle n'existe plus.
C'est intéressant, ça. On voit bien que les œuvres qui disparaissent, hein, pour certaines raisons, enfin, je veux dire, c'est quelque chose dont il faut bien avoir conscience et qui est tout à fait passionnant. Enfin, je suppose que tu regrettes beaucoup la disparition de cette pièce.
Oui, ouais, mais aussi, je vois... Enfin, bon, on n'a pas trouvé de solution.
Donc là, c'est le moment rebut, hein, de la conversation cet après-midi, parce que c'est quand même une dimension. C'est vrai que les objets abîmés, détériorés, prennent souvent un surcroît de poésie au regard de leur état d'origine, qui est complètement assujetti à la fonction qui est originellement la leur. Et là encore, au gré de toutes ces images, j'essayais de vous montrer à quel point, même si Eric n'a pas voulu y prêter, et je le comprends parfaitement et je l'écoute, y prêter, y donner une signification particulière, mais il y a aussi là quand même l'or, et cette couleur est très très présente dans ton travail.
Oui, là en l'occurrence, ce n'est pas une commande, c'est moi qui suis allé vers... Alors, en fait, il y a une vraie raison. Donc on est en présence d'une image, d'un Big Bag, c'est le nom que ça a, c'est ces sacs qui permettent de véhiculer des gravats dehors.
On en voit parfois des très beaux dans la rue.
Voilà, généralement c'est blanc, orange, fluo, c'est des énormes sacs avec lesquels je crois qu'on peut prendre jusqu'à 2 mètres cubes, je crois. Et donc c'est une trame assez, pas grumeleuse, mais épaisse. C'est pas très fin, en tout cas, c'est un tissage grossier de matériaux industriels, ça doit être encore du super polyester. Et donc je vois ce sac qui a été éventré, donc vraisemblablement, c'est des sacs aussi qu'on ne peut utiliser qu'une fois. C'est la loi, c'est bon. Donc celui-là, je pense qu'ils ont essayé peut-être de l'utiliser deux fois et ça a pas marché, en fait. C'est assez curieux, mais ça m'a rappelé des étoffes que j'ai observées au musée d'histoire du Caire. Donc des choses pour le coup qui datent des pharaons. Des choses pour le... On était vraiment dans la même... quelque chose de tissé, assez comparable, en fait. Et... Si ma mémoire est bonne, hein, je crois que c'est pour ça que je suis allé vers le... J'ai eu ce choix de l'or, parce que vraiment, j'ai vu des choses assez comparables. Et voilà, en fait, hein, c'est une histoire de texture, de choses qui... voilà.
Encore.
Pareil. Alors celle-ci, il y a eu une décision... que je ne regrette pas, mais qui a eu des conséquences. Ça, c'est un objet qu'un ami m'a ramené, parce qu'autour de moi, on sait que j'aime bien les trucs un peu... enfin, qui ont eu... Bon, bref. C'est quelque chose qu'il est allé chercher au bord de la Seine, je crois, et qui était donc très, très marqué. Il y avait des champignons partout. Il m'a ramené ça, j'étais en admiration devant cet objet. Et j'ai essayé de le caresser encore avec de l'or aussi et du noir. Et ça a gagné quelque part et ça a un peu perdu quand même de l'autre. C'est-à-dire que le côté champignon était moins évident. En fait.
Et au sol ?
Au sol, ce sont des plaques d'aveugle. Je ne sais pas si on dit des plaques d'aveugle. Des plaques pour que les aveugles, avec leur... simplement leurs pieds, je pense, je sais même pas s'ils ont besoin de la caméra. Ils savent que... Ah, non, là, c'est... Ouais.
Vous voyez, ce qui est assez intéressant, c'est que, bon, le caddie, on pourrait en faire des tonnes sur le marché, sur... voilà. Et donc, une grande partie, au fond, moi, c'est la partie peut-être qui m'intéresse beaucoup, une grande partie de ton travail consiste... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui aiment le sens. Hein. De temps en temps, moi, dans les gens, comme je parle de gros plein de sens, des gens qui ils aiment tellement le sens que ça déborde de partout. Au fond, c'est un travail artistique essentiel que de réussir à priver des choses de leur sens. Et il me semble que l'un des intérêts fondamentaux, l'un des axes fondamentaux de ton travail, c'est ça, quoi, de réussir à faire d'un objet qui aurait tout pour que des gens qui adorent le sens, qui traquent l'interprétation, puissent dire énormément de choses dessus, bah, tu en fais quelque chose d'autre. Et ça me paraît être, quand j'évoquais tout à l'heure en entrée de notre discussion, la question du littéralisme, hein, qui est un terme qui surgit au milieu des années 60, pour au fond... dans le cadre de la sculpture minimaliste, évoquer des objets qui ne veulent être rien d'autre que ce qu'ils sont. C'est facile à faire ça quand on est face à un cube, une planche, quelque chose comme ça, recouvert de peinture. Bon, on dit c'est juste une planche. Quand on est face à des objets du monde qui ont une utilisation, qui peuvent avoir un sens, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Il me semble que l'intérêt du travail de Baudard, c'est précisément ça, que de réussir à faire exister pour eux-mêmes des objets qui avaient un sens dans le monde. Et là, je crois que c'est une des pièces qui m'apparaît réussir magnifiquement ça. Enfin,
oui, écoute, je suis ce que tu dis, beaucoup d'intérêt. Je suis assez sensible à ce que tu dis.
J'espère bien. Non, je blague. Archimède, vous étiez impatient de l'évoquer. Hein. Alors, je le rappelle, tout corps plongé dans un liquide subit une poussée verticale vers le haut égale au poids du volume de liquide déplacé. Alors là, bon, je ne sais pas si c'est vraiment la question, mais on est quand même un peu. Je pense que ça, c'est des pièces absolument, tout à fait importantes. Certaines collections publiques, d'ailleurs, ne se sont pas trompées. Ça a à voir avec bon, l'aquarium, c'est de l'huile, hein, ça a à voir avec ce ralentissement qui est quelque chose de central dans ton travail, parce qu'un ventilateur, enfin je ne suis pas physicien, mais j'ai le sentiment qu'il ne peut pas tourner à toute vitesse dans l'huile, quoi, non ? Oui, c'est ça, hein, donc l'huile c'est pas de l'huile dans les rouages, là c'est oui, quelque c'est chose, ouais. Enfin oui. Mais tu vas en parler mieux que moi, ouais.
Ce travail trouve l'origine, son origine dans c'est une émission comment ça s'appelle, de vulgarisation scientifique, un mec avec des lunettes là, c'est pas sorcier je crois, et question, je crois pour gagner 1000 euros, j'en sais rien, est-ce qu'un téléviseur fonctionne dans l'huile, et
des trucs bien finalement à la télé.
Ouais. et en fait, ensuite, bon voilà, je sais pas si j'ai pas dû bloquer sur le téléviseur, mais oui, assez rapidement, j'ai commencé à faire des essais avec du petit électroménager. Alors c'est vrai que j'ai commencé par le ventilateur, ça me paraissait assez évident, justement. Il y avait une différence de densité. Voilà, l'environnement différent, donc réponse différente du moteur, de l'hélice, ralentissement. Mais j'ai essayé ça, pour ceux qui ont vu cette exposition chez Ricard, il y avait une perceuse avec un énorme forêt à bois qui avait pour effet une, comment on dit ça, une, en fait le niveau, ça faisait un peu comme une bassine en fait sur le, une dépression, ouais. Ça a fait une dépression sur la surface.
Un tsunami.
Non, c'était hyper stable, on avait l'impression que c'était solide. Ouais. Je serais incapable de l'expliquer, hein, parce que je suis pas du tout. J'ai pas de cursus scientifique, absolument. Puis bon, d'autres, par exemple, il y avait un sèche-cheveux, donc ça faisait des circonvolutions dans l'huile.
Encore de l'air. Hein.
Oui, c'est vrai.
Ah ouais, non, mais...
Oui, il y a un ventilateur dans le sèche-cheveux et avec une résistance en plus.
Tout à fait. On regarde peut-être quelques images.
Alors, oui, ça aussi, ça faut en faire l'expérience, mais c'est un drôle. Le comment ça s'appelle ? C'est un mégaphone dans l'huile, c'est un truc, hein, c'est vraiment un truc. Ça fait un. En fait, il est en position alarme et ça produit un son. C'est très très. C'est lointain et en même temps, c'est à la fois aigu, lointain, et l'huile rend cet aigu. Pas si aigu que ça, enfin, c'est très 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 étrange.
Là encore, donc ce ventilateur. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que cette série s'appelle Atmosphère. Alors on voit bien quand j'évoquais le fait que tu emmenais des objets du côté de la pure forme, du côté de l'étude de matière, mais aussi du côté de la sensation de l'atmosphère. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous y avez été sensible comme moi, mais dans les expositions d'Éric, pour le dire assez peut-être platement, mais une atmosphère se dégage, il y a quelque chose qui... Ça, c'est la pièce qui est au musée de Boston.
Ah non, non, c'est pas celle-ci.
C'est laquelle
Elle
une
est.
Pièce de cette série.
Oui, tout à fait. C'est un ventilateur métallique aussi, mais d'un format plus petit. Celle-ci est a fini ses jours à Shanghai, dans un endroit qui.
Quand tu dis fini ses jours, tu nous fais peur. Quoi.
Ah oui, c'est ça. Elle n'existe plus. Elle n'existe plus. L'État a réquisitionné. C'était un endroit qu'on ne pouvait plus y accéder. C'est un domaine public. Et au bout de 3-4 ans, lorsqu'ils ont relâché les brides, c'est pas intéressant ce que je vous raconte. Lorsque mon galeriste a voulu récupérer la chose, on a essayé de le ranimer, mais c'était pas possible. C'était mort.
L'huile ralentissait le vent magnifiquement. Donc on voit la persistance de ce. De ce propos, donc ça c'est pas celui qu'on voit, mais malgré tout il est quand même on peut en parler à propos de l'œuvre qui est exposée ici au
oui Canada. C'est donc c'est le bon en réalité c'est la continuité pas autrement, mais ça ce mouvement ralenti dans l'huile Le fait de le faire sans huile, ça nous permet d'être devant un objet. On est plus en direct avec lui, c'est-à-dire qu'on est dans le même environnement.
Absolument.
Et on subit.
Ni la vitrine, ni l'huile,
voilà. Mais du coup, le ralenti nous imprime davantage. C'est-à-dire qu'on est presque, on est dans un temps ralenti. Alors que lorsqu'il est dans son environnement, dans l'huile. Il y a cette mise à distance en fait parce qu'il y a l'aquarium, mais aussi parce que voilà, il est dans l'huile, donc le ralentissement est comme ça se tient quoi. Alors que le ventilateur comme ça sur pied avec cette vitesse au ralenti, il y a une espèce de temporalité qui se met entre lui et nous, qui nous emmène un peu autre part.
Alors tu nous parlais tout à l'heure des œuvres qui disparaissent. Il y a des œuvres qui disparaissent, il y a aussi des expositions qui ne se font jamais. Et parmi elles, une exposition à laquelle j'avais réfléchi avec mon ami Philippe-Alain Michaud, qui était une exposition sur l'air, sur le vent, et on voulait montrer notamment des ventilateurs dans cette exposition. Peut-être qu'elle se fera... un jour ailleurs. Alors l'air, la ventilation, le ralentissement, la poussière, est-ce que ça te gêne si on parle de ces pièces comme de machines célibataires ? Tu sais, moi, c'est mon métier de ramener l'histoire de l'art sur le... Je suis mal payé pour ça, donc je...
Oui, enfin, ça ne me gêne absolument pas. Je suis pas sûr de saisir la portée du célibataire dans...
Ces machines, ces types de machines dont Duchamp, qui sont des machines, mais qui sont des machines qui servent à rien. L'idée de la machine, c'est de produire quelque chose, d'aider à la production de quelque chose. Et ces machines célibataires sont des machines qui ne produisent rien. Je pense, tu les connais peut-être aussi, des grandes éoliennes qui tournent très lentement, que Didier Marcel a montré dans certaines. On est là dans un... Il y aurait tout un paysage à faire avec ces pièces-là. Oui. Ça ne gêne pas qu'on en parle, en tout cas, comme de machines célibataires. Alors, voilà une œuvre qui a disparu. C'est une œuvre que j'aime beaucoup et dont tu... Voilà, ça... Alors, il s'agit d'un lit de bronzage, à l'intérieur duquel Eric a mis non pas un corps, mais des barils, des boîtes de lessive.
Oui. Alors, bon, au départ, je crois que cette pièce vient d'un... J'ai commencé à collectionner des barils, sans doute parce que leur graphisme, en fait. Hein, leur...
Et ça, c'est quelle époque, ces barils-là?
C'est années 80. Il y en a quelques-uns des années 70, mais c'est principalement années 80, voire même début 90, peut-être. Et aujourd'hui, je me suis plus focalisé sur les Ariel avec l'atome. Ça me plaît beaucoup. Et je peux essayer d'avancer quelques éléments de réponse quant à ce... Donc toutes ces, en fait ces barils sont, c'est des choses obtenues avec, comment on dit, cette technique de peinture, c'est sérigraphié en fait, mm-hmm. C'est sérigraphié avec des encres assez riches, assez vive, et donc forcément là dans ce dispositif là ça marche assez bien. Il y a une réponse là, la photo ne restitue très très mal l'effet. On est devant un quelque chose avec des fluos assez variés, très très forts. Je donne juste un détail, il a fallu quand même que je mette des filtres anti-UV qui, mine de rien, ont atténué justement le fluo, mais on était obligé parce qu'on... Enfin, moi, éventuellement, je les aurais pas mis, mais enfin, grosso modo, on m'a dit que c'était dangereux pour la rétine, c'était clairement pas conseillé, quoi. Et alors, il y a ce matériau, la lessive qui me... En fait, c'est vrai que c'est un... Je sais pas pourquoi, mais c'est pas que je m'intéresse spécialement à la lessive, mais c'est cet élément à qui on donne des enfin, pas des propriétés, enfin, si on ce truc qui lave plus blanc que blanc, enfin on donne des propriétés à ce truc qui sont complètement insensées.
Moi je les vois comme une façon de mettre en lumière les Brillo Boxes de Warhol, où là aussi c'était des tampons à récurer, tout ça. Enfin bon, il y a quelque chose là qui, même sans toi d'une certaine façon, mais on peut filer quelque chose d'assez intéressant. On ne peut pas imaginer que ça ne soit pas dans l'inconscient des artistes, dans l'inconscient de l'histoire. En tout cas, c'est une pièce dont on regrette la disparition, non ?
Ouais, parce que... Bon, c'est pas...
Alors pardon pour le relatif désordre dans lequel toutes ces images circulent, mais comme il y a plusieurs paradigmes qui se croisent dans le travail de Il y a un moment où on est obligé de passer. Alors ça, c'est une pièce que, là, on encore, si je l'ai mis à cet endroit-là, c'est que d'une certaine façon, les barils de lessive étaient piégés par la lumière du lit de bronzage. Là, c'est le titre même de l'œuvre, hein, Light Trap. Donc, je me permets, en douce, de dire encore une question d'optique, de vision et de. Tu nous dis peut-être ce que
alors,
c'est.
Ce sont des tableaux réalisés, composés à base de lamelles d'aluminium. Sont des lamelles qui font 2,5 cm de profondeur sur 1,25 m peut-être de long. Et un jour, en taillant, qu'on n'utilise pas en fait, hein, c'est-à-dire qu'en taillant dans une feuille d'aluminium, parce que j'utilise assez souvent ce matériau, j'ai réalisé que la partie travaillée par la lame d'une scie circulaire, il y avait une réponse à la lumière qui était assez franche, assez particulière. Alors, en regardant de plus près, j'ai vu que c'était comme facettisé par cette lame. Et je me suis dit, pourquoi n'essaie-je pas de former un aplat, donc un plan constitué de ces tranches. Et donc, un peu comme le Cubicron, les pattes, je me suis lancé dans cette entreprise sans savoir exactement combien de temps ça allait me prendre. Et alors, il en existe très peu, il y en a deux, je crois. Il y en a deux parce que la première pièce est toujours facile, entre guillemets, parce qu'on s'accroche à une idée. On se dit, il faut le faire. Le deuxième, on le fait parce qu'on est naïf, on se dit que, et puis on y arrive quand même, on le fait. Puis je crois qu'il y en a même peut-être un troisième, mais il n'y en aura pas quatre. Voilà. Mais en tout cas, par rapport à la lumière, ça marche.
Puis aussi l'idée que c'est ce qui donne son épaisseur à un matériau et qui là devient l'instrument de quelque chose de bidimensionnel. Enfin, comme un tableau, c'est aussi intéressant ça. Hein. C'est une pile, mais une pile qui devient un plan. Là, c'est tout à fait.
Il y avait l'idée de c'est un essai, mais d'obtenir un. Vous voyez le rafraîchissement d'un téléviseur, peut-être plutôt les anciens. Il y avait des hachures comme ça. Je voulais obtenir un côté vidéo. Et il en existe à bord droit.
Donc c'est la fille du pare-brise qui évoquait l'écran, d'une certaine façon aussi, cette pièce-là. Du pare-brise, la fille, au fond, l'idée de l'écran. Alors, tu nous parlais de l'atelier, de la scie, donc je me suis dit que peut-être... c'est une pièce intrigante, ça. Une pièce parce que, d'une certaine façon, dans l'histoire de l'art, le ready-made est ce qui a congédié le métier, a congédié le travail. Hélas, avec la boîte à outils, il y a un retour de ça. Donc
ça, c'est un objet que j'ai aussi glané sur un... Encore une fois, c'est un objet que j'ai récupéré place du jeu de balle à Bruxelles. La place du jeu de balle, hein, c'est cet endroit où des gens vident les appartements de personnes décédées. Ils jettent tout par terre. C'est 365 jours par an. Et on tombe nez à nez avec des choses assez inouïes. Là, donc, cette boîte à outils, elle m'a tapé dans l'œil par rapport aux couleurs. Assez simplement, des fois, il y a des objets. Et en fait, je suis allé regarder un peu de plus près et je vous assure, il n'y a pas un objet dans cette boîte à outils que j'ai reconnu. En fait. Alors, je ne sais pas ce que faisait le monsieur, j'en sais rien, ou cette madame d'ailleurs, je ne sais pas. Mais aucun objet, tout m'était parfaitement inconnu.
C'est une boîte à énigme,
ouais. Et je l'ai ramené chez moi et je... Bon, c'était... La seule chose que j'ai faite, au fond, c'est que j'ai tout fixé à la colle bicomposant pour que ça ne bouge pas. Et c'est une boîte qui est cassée derrière, on ne voit pas, mais ce n'est pas un objet... c'est pas un... Moi, je le trouve très beau, mais c'est...
Bon. Celle-ci est en meilleur état.
Ah, alors ça, c'est un tout autre travail, en fait. Genre ça aussi, je ne sais pas d'où m'est venue l'idée. C'est un... ce que vous voyez là, c'est des... c'est des vis spiralées M2, c'est les deux vis que vous avez sur le bas de l'iPhone, de part et d'autre de la prise. C'est des toutes petites vis. Ouais. Et donc, il en existe, ben, selon l'iPhone, il en existe des argentés, des dorés. J'ai voulu... je ne sais pas pourquoi, mais j'ai voulu... en commander, en fait, de quoi remplir un coffre. Je vous assure que c'est vrai. Hein, je crois que deux vis spiralées M2, ça doit coûter 8 euros, je crois. Et donc, évidemment, j'ai tout de suite rencontré un problème assez bête, c'est que ça a coûté le prix d'un immeuble, en fait. Bon, je pense qu'on aurait pu passer par des... Et là, en fait, c'est un faux semblant. C'est-à-dire qu'il y a juste une couche de 2 cm. J'ai mis une boîte... on est devant quelque chose de très scintillant, de très. On ne sait absolument pas ce dont il s'agit. Lorsqu'on s'approche, on finit par comprendre que c'est des vis, des toutes petites vis. Bon, là, je crois que j'avais choisi d'en prendre des dorés et argentés. Et voilà, ça, voilà, on est juste. Donc, ce que je voulais, c'est que les gens aient cette volonté de mettre les mains dedans. Alors, ils ne pouvaient pas vraiment mettre complètement les mains dedans, mais...
Les yeux, en tout cas. Ouais.
Les yeux, puis je crois qu'on les laissait un peu toucher.
Ah ouais.
Ils étaient sans doute déçus.
Bah oui, voilà. Ils pensaient plonger le bras. Et
ouais, ouais. C'est ça.
Bon, là, on va en venir à un chapitre important. C'est celui sur lequel on va peut-être finir, en tout cas, d'évoquer toutes ces pièces qui semblent... qui appartiennent au mur, et appartenant au mur, elles évoquent aussi elles évoquent la peinture. Alors ça, c'est vraiment, quand on pense à toi, on pense souvent au papier millimétré quand même. C'est l'un des marqueurs de ton activité depuis assez longtemps. Je pense que pour ceux qui ne connaissent pas ici, et je pense qu'il y en a un certain nombre, c'est bien quand même, avant qu'on en parle, qu'on dise ce qu'il faut en penser. D'une certaine façon, tu nous expliques quel est le processus, parce que de toute façon, le processus, oui, est quand même essentiel.
Alors, je me souviens très bien de, en tout cas, comment cette pièce, comment j'en suis arrivé à faire ça.
C'est mes premières montrées.
Ah oui, ça, celle-ci, c'est les bords blancs comme ça. Je me demande même si c'est pas. Non, ça doit être la deuxième. Mais il n'y en a pas beaucoup, des bords blancs. En fait, à l'origine, j'étais parti sur une grille, donc beaucoup plus petite, sur une grille un papier millimétré. Et à l'aide d'une épingle, j'étais parti dans l'idée de reconstituer une image à la façon d'une grille. Aujourd'hui, les appareils photo, les capteurs sont des grilles. Et je voulais, obtenir une image en enlevant des petits pixels de papier. Mais bien avant d'enlever le premier pixel de papier, lorsque j'ai commencé à couper les lignes du papier millimétré, il a commencé à se passer des choses, en fait, plein d'événements assez différents. Je vous raconte la genèse. Donc j'ai complètement abandonné ce projet de reconstituer une image, parce qu'il se passait vraiment beaucoup de choses sur cette surface lacérée de coups de cutter. Et puis j'ai commencé à faire des formats un peu plus grands pour le laisser un peu vivre, hein, et j'ai commencé à couper voilà, c'est ça. Donc dès le premier modèle, il y a cette ligne transversale un peu oblique, parce que je trouvais pas de cartoline assez grande. Et lorsque je mettais deux plaques de cartoline avec cette ligne, lorsque je l'intégrais dans la grille, ça ne fonctionnait pas du tout, en fait. C'est un élément assez important de cette série. Et comme je le dis assez souvent, je suis pas très certain de savoir exactement ce que c'est, cette croix ou cette. Moi, j'ai l'impression que ça nous aide à s'engager dans cet espace, en fait. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse dans ce travail, c'est très clairement ce que je contrôle, mais surtout ce que je contrôle pas.
Peut-être que tu dises que le coup de cutter génère l'apparition.
Ça crée de l'espace, en fait. À chaque fois que vous coupez, étant donné que donc c'est une feuille de papier ménétré que j'imprime et que je colle sur une cartoline, un carton assez tendre, à chaque fois que je viens couper une ligne, successivement, les lignes s'accumulent et ça crée de l'espace, en fait. À chaque fois que je coupe, ça crée de l'espace et donc ça crée une tension qui fait que lors de la deuxième passe, lorsque je croise les lignes de coupe, eh bien, il y a comme une... tout un vocabulaire d'accidents assez identifiables que je commence à connaître, liés à des tensions différentes, et aussi selon comment on tient son cutter, donc aussi surtout selon la personne qui va couper cette surface, on va obtenir des choses très très différentes.
M'intéresse aussi dans une pièce comme celle-ci, c'est qu'à la fois on a un procès de production hyper normé, hyper répétitif, hyper automatisé d'une façon, hein, et que ce procès, paradoxalement, il engendre une forme de fantaisie formelle tout à fait étonnante. Il y a une espèce de paradoxe entre le contrôle et la régularité du processus et le projet et le résultat engendré. C'est l'un des paradoxes tout à fait savoureux, intéressant. Je ne sais pas si tu connais les pièces qui ont des effets très très différents, mais lorsque Bernard Fries était dans une phase de descente comme ça, totale de sa pratique dans les années 80, il avait acheté des toiles brutes et avec des traînards ces petits pinceaux qu'on sert pour peindre les cordes dans les maquettes quand on fait des bateaux, des choses comme ça. Il avait décidé de reproduire avec un traînard, il reproduisait tous les fils qui constituaient la toile sur laquelle il peignait. Et donc, ça donnait des résultats tout à fait étonnants. Et là, avec un processus proche de l'obsession, enfin proche du procédé obsessif. Et j'ai toujours mis en rapport, même si les effets sont totalement différents, parce qu'il n'y a pas ces effets de... Les résultats sont beaucoup moins surprenants d'une façon dans le... Mais voilà, il y a quelque chose comme ça de tout à fait intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'essayer de faire circuler les relations entre les œuvres par-delà les styles, les pratiques, les matériaux. C'est quelque chose, sans doute une nouvelle histoire à partir des processus et des choses de ce type, en dehors des styles à écrire. Alors là, c'est autre chose. Là.
Oui, ça c'est un... Alors il en existe, c'est pas une série, mais j'ai deux... Il y a deux tableaux dans ce... Voilà, qui ont des similitudes. Là, il s'agit au départ d'un store que je récupère. Ça vient du Vietnam. C'est un store. En fait, ce que vous voyez, il y a une partie grise, gris clair. C'est la partie du store qui n'a jamais été déroulée. Et l'autre partie, marron, sombre, très clairement insolée. Bon, elle a connu sans doute le reste, mais enfin, c'est très clairement le soleil qui l'a cramé. La bâche est montrée, c'est le dos que l'on voit. Pourquoi ? Parce qu'il s'agissait d'une bâche Coca-Cola rouge. Et au fond, j'ai rien. Enfin, j'aime beaucoup l'esthétique Coca-Cola, mais ça aurait été. Enfin, ça aurait été trop. Et puis, ça aurait été un élément beaucoup trop graphique, beaucoup trop. Et là, personne ne voit que c'est Coca-Cola, mais au fond, c'est pas important. Il y a déjà des arabesques, des choses. Il se passe quelque chose, voilà. Voilà. Ben voilà, la deuxième. Donc ça vient. J'ai récupéré à Venise. Alors souvent, je dis malheureusement, le monde ne m'appartient pas. Et je dis ça parce que vraiment tellement souvent, ça arrive. Je vois un truc fabuleux. Oui. Oui, mais ça, a priori, on se dit, bon, ça, je devrais pouvoir le récupérer. Ça, je remercie ma femme qui est là. C'est grâce à elle que je l'ai récupéré. C'est-à-dire que c'était un magasin qui loue des cassettes VHS. Et ce store qui était cassé, qui... Bon, là, pareil, on a cette zone bleue qui n'était jamais déroulée. Et puis, ce store était là, ballant. Enfin, il était mort, quoi, grosso modo. Et j'ai proposé de l'acheter. Et le monsieur m'a dit, très bien, tu veux le récupérer. Il va falloir acheter un nouveau store, une nouvelle machinerie, une nouvelle... Mais j'y ai tellement tenu. En fait, je le voulais tellement. Et j'ai envoyé ma femme négocier à ma place parce qu'elle est beaucoup plus douée que moi. Et... Ça n'a pas marché. Il a fallu tout lui racheter. Et alors lui, je pense qu'il en parle encore. C'est une anecdote, mais je pense que lui, il en parle encore. Il va se dire, il y a un cinglé qui...
Tu as un goût, Eric, pour la peinture informelle ou pas ?
Oui, je crois bien. Oui. Ouais,
on va finir.
C'est quelque chose, c'est une des rares pièces que je ne montre pas. Là, j'ai une consigne. Je ne la montre pas à l'horizontale parce qu'on est immédiatement dans le champ de blé. Et c'est pas du tout...
Ouais, ouais. Voilà. Il y a la ligne d'horizon, ouais, voilà. le ciel bleu en haut. Ouais, voilà. Ça, c'est trop de sens. Hein. Ouais. Il vaut mieux... t'as raison. On fait défiler les dernières images. Hein, et le cours de votre dimanche va pouvoir reprendre. Donc, il y a des œuvres. Il y a une grande œuvre qui appartient à cette série dans l'exposition. Je fais défiler quelques images. Alors, là encore, hein, les radiateurs, c'est la circulation des fluides, hein, la chaleur, l'air. Donc, on est encore.
En fait, c'est marrant, ça te paraît évident, mais je pense que je viens de réaliser ce que tu dis là. Par exemple, les flux, les choses, c'est pas quelque chose à laquelle je pense.
Mais il y a quelque chose. Ton travail pense par moment à ta place, d'une certaine façon, non ? Il y a une forme de logique qui se déploie, enfin cette pièce tout à fait donc c'est quoi, c'est des... moi j'ai pas de voix.
Donc c'est le ça porte très mal son nom en France, on dit radiateur, en anglais on dit cooler, hein, donc ce sont des choses pour refroidir ce qui est trop calorifère, hein, ce qui
le vent, refroidir,
tout à fait, donc c'est des choses qui sont d'ordinaire soustraites du regard, hein. Ça ne voit la lumière que lorsqu'on a un souci mécanique ou Et je suis tombé sur un de ces éléments dehors. Bon, ça, c'est une pratique assez courante. Hein, où je le ramène à l'atelier. Et puis voilà, je commence à le manipuler un peu. Et puis, c'est pas suffisant. Ou j'ai raté. Donc, j'en commande un, deux, trois. Et puis, en fait, je trouve la surface super intéressante. On peut lui faire toutes sortes d'outrages. Enfin, c'est... Et puis, enfin... Là, on en voit un qui prend énormément la lumière, ouais. Celui d'avant beaucoup moins.
Ouais, bon, c'est des light trap aussi.
Tout,
hein,
complètement. On est tout à fait. Sauf que là, j'ai pas à les découper. C'est beaucoup plus. c'est beau. Et voilà l'idée, c'est-à-dire que bon, moi, faut dire, enfin, j'aime pas trop m'ennuyer. Je vais pas en faire 20 oui, voilà, c'est ça. Et puis l'idée, c'est pas tant d'obtenir un truc virtuose, comme je dis, c'est plus montrer le potentiel du ce qu'on peut faire avec, quoi, tout ce qu'on peut faire. Il faut quand même que ça. On n'a pas tellement évoqué. Enfin, si, t'as parlé de l'optique tout à l'heure. J'aime pas la joliesse, mais bon, pour autant, je cherche très clairement un résultat visuel. Il faut que ce soit convaincant, oui. Il faut que ce soit convaincant, de toute façon.
Tu aimes la forme.
Ouais. Oui, ça c'est certain.
Absolument.
Non. Très bien. Mais écoutez, j'espère que... Merci beaucoup, Eric, d'avoir fait ce parcours, ce long parcours, un peu plus long que prévu, peut-être, mais... On a essayé de ralentir. Là. Et...